La Cibmas présente. Conversation d'arrière-scène. Un portrait radiophonique de Suzy Falk.
Ah ben, il est déjà occupé, mais c'est épouvant.
C'est un peu très attention.
Oui, oui. Non, non.
Une émission de Guillaume Istas et Régis Duquier.
Vous devez vraiment tenir ça sous le nez à ce point-là pendant 3 heures. Eh bien, ça va être gai. Hein. Bon, enfin, vous n'allez pas me raconter quand même qu'il faut parler comme ça. Vous avez le ça comme ça. Mon papa est né en 1872, ma maman en 1882. Et ils ont dû se marier vers 1901-2, 3 peut-être par là. Alors, mon papa a hérité d'un oncle, un domaine en Afrique du Nord, à Oran. Eh bien, ils sont partis. Et mes frères sont nés à Oran. Et ma maman n'a pas supporté le climat. Elle voulait avoir des nuages, supporter pas le soleil, c'est comme moi. Et mon père a dit, c'est très bien, on vend tout ça, on remonte à Paris. Et ils sont remontés à Paris, où ils ont habité jusqu'au début de la guerre, c'est-à-dire en 14. Et quand la guerre s'est déclarée, il était sujet allemand. Les Juifs, ça n'existait pas. Il était donc sujet allemand. Résultat, la France lui a tout pris en disant « vous partez » et on l'a jeté dehors de la France, alors qu'il y vivait depuis le début du siècle. Et il est parti en Suisse, qui était neutre, pour travailler à la Croix-Rouge suisse. Il a fait ça pendant toute la guerre, il ne voulait pas rentrer en Allemagne, il ne voulait pas se battre contre la France, et la guerre s'est arrêtée. Et il a dû rentrer en Allemagne, il n'avait plus rien. Ils ont tout perdu. La France n'a pas payé des indemnités de guerre, rien du tout. Il a eu l'Allemagne qui s'est serré la ceinture. J'ai encore de l'argent allemand de l'époque de ma naissance, avec la date de ma naissance, un milliard de marques pour un bout de pain. Donc c'était terrifiant. Ils sont rentrés en Allemagne, il a tout recommencé. Et puis est arrivé Hitler. Et là, il n'était plus allemand, mais il était juif allemand. Donc, et il est parti en 1933. Et alors, il voulait d'abord repartir pour la France. Mais là, à l'époque, il vendait des salles de bain en Allemagne. Mais la France n'a pas voulu, parce qu'il ne pouvait pas sortir avec de l'argent de l'Allemagne. Mais la Belgique a dit oui. J'avais 11 ans. On habitait à Jette, il n'y avait rien à Jette, c'était la campagne à Jette. Moi, je suis arrivée au boulevard de Smedeneyer, il n'y avait rien. Il y avait l'église un peu plus loin, les champs en face et mon premier amoureux. Moi, on s'est promené dans les champs, je portais de la maison, on traversait la rue, on était dans les champs, quoi. Dans les champs, j'ai quelque part une belle photo, je suis toute jolie encore. Moins jolie qu'après, parce qu'après, c'était encore beaucoup mieux.
Et ils ont frappé. Malgré leurs paroles, malgré l'opinion du monde, ils ont attaqué la Pologne. C'est là que l'Allemagne, dans sa première agression armée, a commencé la guerre, a commencé la mort, a commencé la misère qui devait prendre fin.
Le 10 mai 40, quand les Allemands ont bombardé Melsbrook et qu'ils sont arrivés, mon frère a téléphoné à sa maman. Nous habitions à Jette et eux habitaient à Boisfort. Et mon frère a dit, tu fais une valise, tu prends tout ce qui est important, les bijoux, les trucs, quelques objets, tu prends la petite par la main, quoi, hein. J'avais 17 ans, 18 ans, petite jeune fille, pas comme maintenant, hein. Un enfant, hein. Ils m'ont ils m'ont préservé de tout. Je ne savais rien. Il n'y avait pas de télé, il n'y avait rien. Il a dit, tu viens avec la petite, on part à la gare du Midi, on part en Angleterre. Et on n'a jamais pu passer, parce qu'à la place de l'Isère, la Belgique a fait sauter le pont. Et on n'a plus pu passer. Et de toute façon, ma maman, elle courait comme un poulet à qui on a coupé la tête. Et je prends quoi? Et je ne peux pas tout laisser. Je n'aurai plus rien. J'aurai plus rien. Elle n'a pas pu. Et c'était trop tard. Et ma mère a fait faire de faux papiers. Elle s'est cachée parce qu'elle aurait... Si elle avait été prise dans une rafle, elle ne passait pas. Elle parlait encore avec son accent allemand. Non pas qu'on aurait vu qu'elle était juive, mais moi, je pouvais me défendre. Je parlais parfaitement le français. Je savais que ma carte, ma fausse carte d'identité, je savais où habitait la petite jeune fille dont j'avais les papiers, qui était une jeune fille qui était morte et que les communes faisaient de fausses cartes d'identité, mais qui étaient des vraies cartes d'identité. Nous avons été arrêtés tout à fait par hasard parce que dans notre maison s'était installée une famille juive grecque. Le type était jeune, il avait deux petits-enfants et il était interprète à l'hôtel Atlanta. Il parlait quatre ou cinq langues. Et ma maman avait toujours dit, « Monsieur Florentin, mettez vos enfants à la campagne. S'il vous arrive quelque chose, au moins que les petits-enfants s'en sortent. » Et ces gens, habitués à vivre avec leurs petits-enfants, ne voulaient pas les lâcher. Eh bien, les Allemands sont venus arrêter ces gens-là. Et ce malheureux ne parlait plus que grec. Et les Falk, et nous, et pas les Falk. Il ne nous a pas dénoncés. Il a dit comment ça se fait, etc. Alors, ils ont fait ici Gestapo, ouvrez. Ils ont ouvert la porte, ils ont vu les vêtements avec l'étoile et tout. Embarqué. Cette fameuse cave à l'avenue Louise, il y avait un monde, c'était épouvantable. De ça, on se souvient. Quand on se fait attraper comme ça avec tous ces gens là-dedans, c'était l'horreur. Une toute petite cave, 60 personnes debout avec les valises et les enfants sur les épaules, la pisser, caca par terre. Les gens dans l'épouvante, dans la peur, tu lâches tout, hein. Plus moyen. Et on frappait pour aller aux toilettes, on frappait toutes les deux heures, ils laissaient sortir deux personnes sur 60 dans une petite cave à charbon comme ça. Alors qu'il y avait cave à charbon et cave à charbon et cave à charbon, parce que c'était un immeuble, c'est un truc à appartement à l'avenue Louise. Quand nous avons été arrêtés, tous les faux papiers ont marché. Moi, j'avais un faux papier comme quoi j'étais tuberculeuse. Alors, j'ai toujours dit que c'était le plus beau rôle de ma vie, une fois qu'on était dans leurs mains. Et ma mère tombait dans les pommes tout le temps, tellement qu'elle avait peur pour moi. Elle savait très bien ce qui allait me pendre au nez, hein, donc le viol et la déportation. Ils ne savaient pas exactement ce qui se passait dans les camps d'extermination. Je crois que même mon père ne l'a pas su avant sa mort. Mais on m'a tout caché. Moi, je savais tout juste que les Allemands étaient loin d'être des amis, évidemment, et que ça pouvait risquer de tourner mal. Disons qu'on a été arrêté puis échappé, foutu dehors à cause des faux papiers qui disaient que ma mère était cardiaque. Ça, ils s'en foutaient, mais que la fille était tuberculeuse. Là, ils se sont méfiés parce que c'était très contagieux. Alors, je prenais un truc comme ça et je faisais tout juste. Pas plus. Je me disais toujours, n'en fais pas trop. Sois réservé, un peu triste quand même, c'est pas très gai. Et puis, pas tousser. Oh non, rien de très discret.
La grande nouvelle vous est donc parvenue ce matin, chers compatriotes, et le cœur du pays a dû en battre violemment. Monsieur Churchill l'a annoncé ce matin au Parlement, laconiquement et avec simplicité.
Donc à la libération, dès qu'ils nous ont libérés, ma maman est allée loger chez une amie à elle, qui habitait près de la basilique, et moi, j'ai abouti, d'ailleurs c'est ici, dans je crois, rue Pierre de Bruyck. Je suis allée 6 mois au conservatoire. J'ai laissé, je m'ennuyais tellement que j'avais plus envie d'y être. Ben oui, je m'embêtais parce que, bon, j'étais une élève libre, comme on disait à l'époque. Et là, je voulais absolument travailler. Et je passais toujours après celle qui était là tout le temps. Et puis je me disais, mais qu'est-ce que j'apprends ici? Ça m'embête. Je le ferai bien toute seule, quoi. Et les chœurs parlaient de Madame Renaud Thévenet, qui était une femme qui avait beaucoup d'amitié pour moi. Elle me donnait toujours des câlins. Elle avait des verrues comme ça sur la figure. Et moi, cette femme. Et c'était les chœurs parlaient, c'était comme ça. Comme De Gaulle parlait, on parlait comme ça. Je me dis que c'est embêtant. Qu'est-ce que je m'embête? Je dis, oh là là, pfff. J'ai pas de papier pour sortir de l'école, j'aurai rien ici, et puis basta. Je vais aller au théâtre, bien m'amuser, peut-être. Je vais jouer des petites choses en avant, on y va.
Le théâtre de l'équipe. Voilà, le théâtre de l'équipe.
Fernand Piette était un tourneur de l'époque. C'était un homme qui était un chaud communiste avant 1936 et qui était un homme qui voulait apporter le théâtre aux gens qui ne savaient pas ce que c'était, qui n'étaient jamais allés au théâtre, qui ne savaient même pas ce que c'était. On jouait dans des cafés, on mettait des tables comme ça ensemble, ça faisait un plateau. Toutes les tables du café, on montait sur les tables, on jouait avec un beau petit décor fait d'eau et tout ça. Il y avait un beau palmier, un beau guéridon, un beau fauteuil, et puis voilà, c'était tout, on n'avait besoin de rien. Et c'est le texte qui comptait, évidemment. Les comédiens routiers se sont formés juste avant la guerre ou pendant la guerre avec Jacques Heussmann, qui avait fait des études d'ingénieur ou de je ne sais pas quoi. Il a mis ensemble les copains et ils sont devenus les comédiens routiers. Et moi, je suis entrée dans la première année du Théâtre National. Je suis allée avec le théâtre dans un camion ou un vieux car en Allemagne. Dès que la libération est arrivée, nous sommes allés jouer pour les Belges en occupation en Rhénanie, où nous étions, autour de Cologne, Düsseldorf et tout ça. Et l'Allemagne était à plat. C'est comme quand vous voyez les ruines maintenant, on bombarde les gens qui marchent dans les ruines après le tsunami, par exemple, où tout était. Eh bien, l'Allemagne, c'était ça. Et on était partis avec du chocolat, des oranges, de toutes sortes de choses, du rouge à lèvres, tout ce que les autres n'avaient pas. Il y avait dans le car un vieux comédien. Il se lève et il a une orange dans la main. Grand type, bâti, carré, comme ça. Il montre l'orange, il dit, vous allez à nous. Il nous dit, vous allez voir. Il commence à éplucher son orange, il avait découpé des trucs. Et des petits enfants, tout petits, couraient à côté du car pour essayer d'avoir un chocolat. Et il arrive le premier à la porte, au moment où le car s'arrête. Et tout le monde se lève et il dit, attendez. Et il est sur le pas de la porte, donc haut dans le car, au-dessus de ses enfants. Ah, les enfants, il avait épluché. Vous voulez une orange? Je comprends. Il a pris l'orange, il a mordu dans l'orange. Il leur a jeté les épluchures. J'ai trouvé ça affreux. Oh, my God. je jouais régulièrement au Théâtre National. D'ailleurs, tout ça est là-dedans, dans l'ordre. Oui, parce que je plonge toujours la main. Mes petits agendas. J'ai pris 48, 47 et 49. Mais le petit agenda de 44, juste après la libération, 44, pas 45, je crois, eh bien, tout est vide ou presque vide. Et puis, après la libération, quand les Anglais sont entrés à Bruxelles, eh bien, j'ai marqué le lundi, je crois, ça, ou ça commençait le dimanche ou le lundi, je ne sais plus, entrée des Anglais à Bruxelles, etc. Et le jeudi, j'ai marqué, je recommence le théâtre, c'est tout. Bon, j'ai pris ça simplement pour me souvenir. Et je jouais déjà sans arrêt. Hein. On peut prendre 47, juste pour voir. 47, c'est celui-là ou l'autre? Voilà, 47. Hein. J'ai marqué M, c'est le matin, ou répété probablement. S, c'est le soir. On jouait le soir. Et tout le temps, c'est répéter et jouer, répéter et jouer. Alors, Luxembourg, soirée, Arlon, soirée, Bruxelles, soirée, Bruxelles, soirée, Bruxelles, soirée, le lendemain, matinée, soirée, matinée à Bruxelles, soirée à Bruxelles, le lendemain, soirée à Bruxelles, soirée, le lendemain, soirée à Bruxelles, le lendemain, matinée et soirée, le lendemain, matinée et soirée, Bruxelles toujours, le lendemain, matinée et soirée, le lendemain, matinée et soirée, le lendemain, le lendemain, encore matinée et soirée, le lendemain, soirée, le lendemain, matinée, le lendemain, matinée et soirée à Louvain. Je vois là-dedans, lever 7h30, jouer, répéter le matin, jouer l'après-midi, matinée et soirée, 10 jours d'affilée, 15 jours d'affilée, sans un jour de congé. On n'a jamais été bien payé au théâtre, mais si on travaillait beaucoup, on pouvait vivre. Moi, j'ai vécu de ça. J'ai été très peu au chômage, très peu. Mais on gagnait pas beaucoup. En plus de ça, ils vous enlevaient déjà plein de taxes. Et ceux qui ne l'ont pas fait, c'est ça qui fait que la pension est si basse aussi. Parce que moi, j'ai pas plus que j'ai maintenant. Qu'est-ce que j'ai si je n'avais pas eu d'autres rentrées d'argent? Si j'avais pas été la fourmi de la fable. Je n'ai pas été la cigale, j'ai été la fourmi. Mon papa disait, quand tu as 10 francs, tu en dépenses 7 francs maximum et tu en gardes 3. Pour la vieillesse, pour les mauvais jours, pour les maladies, pour l'accident, pour l'imprévu, pour ceci, pour cela. Tu ne prends pas 10 francs et tu fais encore des dettes pour 2 francs.
Du luxe dont on m'environne, pour un destin bien moins brillant, pour un destin bien moins brillant, sans regret.
On m'a jamais donné les grandes tragédies. Il disait que c'était pas mon emploi. J'étais une fantaisiste aussi, je dansais, je chantais, j'ai fait du cabaret, j'ai fait de l'opérette. Et alors bon, j'ai failli faire 2-3 trucs comme Enon dans Phèdre et tout. On m'a appelé pour remplacer quelqu'un qui était tombé malade. Et j'ai passé 2-3 nuits, c'était pour 3 jours après. Épouvantable à prendre ça, en 3 fois je pouvais encore faire ça, je lisais 2-3 fois, ça allait. Mais quand il y a Racine, Molière, Corneille... Ces gens-là, c'est pas si simple que ça. Hein. C'est pas comme un moderne où on peut alors mettre n'importe quoi, éventuellement. René Bizac, on peut changer le texte, c'est pas grave. Mais avec Racine, avec Corneille, hein. Bon, mais Enon, un rôle magnifique. Eh bien, heureusement qu'on m'a téléphoné un matin, le deuxième matin. « Bonne nouvelle, sans doute pour toi, tu dois pas... » On a trouvé quelqu'un qui la joue et j'ai fait « Oh !» Quelle chance! La comédie, c'est du théâtre. La tragédie, c'est ma vie, c'est pas le théâtre. La tragédie, ça a été ma vie, mais pas le théâtre.
C'est une étrange légion qui avance. Elle est formée de filles et de garçons casqués de blanc.
68.
Le visage masqué par un mouchoir, le couvercle de poubelle à la main en guise de bouclier.
On a dit la société n'est plus ce qu'on veut, on veut autre chose, quoi. Les jeunes voulaient jeter dehors papa et se mettre dans son fauteuil. Là, on essayait de jeter Jacques Haussmann dehors en disant « Vous ne faites pas du bon théâtre. » Mais moi, j'ai adoré ce type. C'est pas moi qui le jetais dehors. J'étais dans la salle pour voir ce qu'ils allaient faire. Hein, parce que je me suis disputée avec Frison. Je ne savais pas qui était Frison et lui ne savait pas. Dans le cadre du Théâtre National, je verrai toujours Jacques Haussmann comme ça, face à la salle, contre ces jeunes hurlant dans la salle, et moi dedans, et tout à coup un jeune homme qui se lève, j'étais dans la galerie, Jacques était en bas, contre son truc, j'adorais le théâtre, je trouvais que c'était un grand metteur en scène, et alors il y a un type qui parle là, et je le regarde, il est là, Jacques Haussmann, allez, en bas le théâtre, je dis, dites donc jeune homme, vous avez fini de parler comme ça à ce directeur de théâtre, il s'est tourné vers moi, il a dit, dites-vous la vieille comédienne à la retraite. Je dis, moi, une femme comédienne à la retraite, je crois. Je dis, peut-être que je suis à la retraite au moins, on me connaît, tandis que vous, on ne sait pas qui vous êtes. Et j'ai rappelé ça à Frison, que j'adore. Moi, j'adore Frison, on s'entend très très bien. J'ai joué avec lui encore il n'y a pas longtemps. Je voulais arrêter, mais je me suis dit, puisque René vient avec cette jolie pièce, pourquoi pas? Moi, j'ai dit oui, je lis la pièce, je l'aime beaucoup. La complication est venue pendant les répétitions, on s'est posé des questions. Est-ce que comme ça, ça marchera bien? Voilà, c'est très simple, un comédien reçoit un texte. Il voit le texte. Et du texte, il fait la vie de quelqu'un. Mais le metteur en scène peut dire, je voudrais quand même, par exemple, on fait ce qu'il veut. C'est normal, on essaye de faire ce qu'il veut, et en même temps, on se dit, si j'ajoute mon petit truc, il ne verra pas. Il croira peut-être que... Moi, je lui ai dit, tu n'es pas une vieille femme. Moi, je suis une vieille femme. Tu as eu des chats? Oui, ma mère, je dis donc, tu n'es ni une vieille femme, t'as pas eu des chats. T'es pas une femme solitaire à laquelle on va jeter hors de sa maison et qui a peut-être été juste la compagne du mari, qui n'a peut-être jamais travaillé, était sergent-chef en Indochine. C'est une petite bourgeoise et qui aime sa maison et qui adore ses chats. On dit dans la pièce que personne ne vient jamais chez elle. Tu n'es rien de tout ça. Alors laisse-moi tout de même te dire un peu ce que c'est peut-être. Je suis une vieille femme, j'ai eu des chats et tout ça. Tu vois, alors on discute comme ça. Et ça devient parfois, c'est épique. Hein. Ah. Des chats. Alors il partait fâché. Et moi je dis, marre. Et puis le lendemain, dit, ça va? Ça va bien. Oui, tu sais, j'ai bien réfléchi et ça va bien. Mais tu es magnifique, hein, tu es magnifique. Je sais, je suis magnifique. Dans 2 ans, j'aurai 90. Il ne faut pas oublier ça, ce n'est pas parce que j'ai l'air d'une fraîche jeune fille comme ça. Mais quand on est debout à 7 heures du matin, qu'on est en place à 10 heures pour répéter et qu'on arrive chez soi à la maison à 6 heures de l'après-midi et qu'on n'a pas une gouvernante et qu'on n'a pas une servante et qu'on n'a pas un chauffeur, comment faire? Donc tout ça, je vais devoir faire maintenant. Et quand on fait tout ça, et surtout qu'il faut manger, si on ne mange pas, on ne tient pas. Ça veut dire encore faire les courses, se faire à manger, se coucher à 2 heures de la nuit, être là le lendemain. Et vous croyez qu'à 90 ans, on peut encore... Alors je me suis dit, il faut arrêter, il faut partir avant qu'il ne soit trop tard. Et maintenant, tout le monde est ébloui parce que je suis en pleine forme qu'il croit. Ça n'est peut-être pas vrai du tout, mais bon, ce n'est pas grave. Hein.
C'était Conversation derrière scène, un portrait radiophonique de Suzy Falk. Les entretiens et le dérechage ont été assurés par Régis Duquet et Guillaume Istas. La réalisation, la prise de son, le montage et le mixage ont été assurés par Guillaume Istas. Une production de la Cibmas.